Pourquoi? Parce qu'elles se sont aperçues qu'on les regardait avec un œil, etc. Et alors ça les gêne tellement qu'elles n'osent plus mettre leur beaux atours, si je veux dire. Alors, c'est clair. Vous voyez, par exemple, on est gêné. Et je crois qu'on est gêné à juste titre. La relation sociale fondamentale, c'est, nous avons peut-être l'occasion d'étudier cela avec mon étude d'Hobson, c'est la parole de paix. La relation sociale authentique, c'est la parole de paix. Et la parole, ce n'est pas simplement ce qui s'exprime uniquement au niveau de la parole de la bouche, du langage de la bouche, c'est tout ce qui s'exprime dans le comportement des relations d'un sujet à l'autre au niveau de la société. Lorsque l'homme ne dit pas une parole de paix, et qu'au contraire, il dit une parole d'envie, de jalousie, de rivalité, il y a gêne dans le sens strict dans la relation sociale, et la relation sociale finit par devenir insupportable. Alors, dans la société traditionnelle, on avait diagnostiqué cela, c'est un phénomène qui ne trompait personne. Chacun savait que tout le monde était au courant, que regarder dans certains regards, ça signifiait la jalousie de l'envie. Et on avait, je ne sais pas comment vous dire, le mot en hébreu est très clair, c'est le smalim. Le mot en français, sur un livret, est un peu trop chargé de sens magique et symbole. Mais employons-le entre guillemets. On avait de façon symbolique des signes par lesquels on indiquait qu'on n'était pas dupe. On allait mettre une belle robe, mais au-dessus, un bijou d'une forme spéciale qui montrait « je connais ton regard ». Et donc ton regard devient inefficace. Vous avez compris à peu près ce que je veux dire ? Alors, d'où un certain nombre de bijoux symboliques, si j'ai dire, entre guillemets. En particulier, je vais vous parler de celui-là, mais il n'y a pas que celui-là. En particulier, la main juive. Vous savez, pas la main de Fatima qui est la main musulmane. La main musulmane a deux pouces. Il y a trois doigts et deux pouces. Vous avez remarqué, ça. Tandis que la main juive a quatre doigts et un pouce. Elle est normale. Je ne sais pas si c'est. Les juifs qui n'ont pas voulu faire comme les musulmans qui n'ont pas voulu faire comme les juifs. Voilà, d'après ce que j'ai appris à ce sujet, ce symbole signifie baï. Ça suffit, baï. Vous connaissez le mot hébreu, baï. Et effectivement, puisque si vous comptez les phalanges qu'il y a dans une main, vous en avez 14, c'est la valeur numérique du mot baï. Et d'autre part, le mot de baï, c'est l'inverse du mot yad qui signifie la main. Alors avec l'inverse de la main, on fait le signe de baï. Pour dire, je suis pas dupe, je sais comment tu me regardes, mais c'est inefficace. Alors on pouvait se mettre la belle robe. Vous avez dans différentes communautés, on s'est finalement habitué à des signes de ce genre. Alors, le mot d'or ne voit plus que des bijoux folkloriques, symboliques, et si jamais on dit que ça a un sens, alors on se fait taxer de superstition. Mais dès qu'on étudie le problème, on s'aperçoit que tout simplement, au niveau psychologique profond, l'homme moderne civilisé est un être très dilué, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à percevoir l'intensité de ses réalités, sinon dans des cas pathologiques. Puisque finalement, il arrive que de mauvais regards de ce genre finissent par faire tomber malade quelqu'un. Et il faut un traitement psychiatrique. Vous avez compris le énormément de conduite de ce genre. En particulier, on protégeait les tout petits enfants en leur mettant, dès leur naissance, un bijou autour du cou. Et puis, chaque communauté avait en fin de compte ces symboles. Je sais, par exemple, que chez les Tunisiens, c'est un petit poisson en or. C'est bien ça? Il y a des Tunisiens parmi vous? Qui indique aussi un signe de fertilité, ou machin de cavé. Mais, en général, c'est ce signe de la main que vous rencontrez le plus souvent. Je crois qu'il y a un bijou de ce genre très récent dans le folklore israélien. C'est le bijou Hai, avec le devait être fait et vous avez remarqué ça? Je crois que c'est un bijou qui a été lancé par un bijoutier à la 18e année de l'État d'Israël et il a fait fortune avec. Ça fait fortune. Ça veut dire la vie. Et je pense que dans les communautés, on a adopté cela spontanément, instinctivement. Je crois que le comportement du peuple est très significatif. Il y a eu une sagesse du peuple pour elle-même. On a adopté ce bijou qui avait donc une finalité commerciale sioniste très particulière. Avec la même signification de protection contre le regard d'Henri. Le Shaddai, c'est ça le Shaddai?
C'est pas le Shaddai.
Ouais. Chez la mère Baï. C'est ce qu'on appelle le Shaddai. Enfin, chez le Sarabim, le Shaddai, c'était toujours une main. On mettait le Shaddai dedans parce que tout simplement, c'était en relation avec le monde de la culture arabe. C'est...
D'ailleurs, quand on fait
le Shema, on fait le Shin. D'accord, on fait pas seulement le Shin, on fait le Shaddai. On fait le Shin, d'Alot Yud. Bon, voilà en tout cas, si vous voulez, au niveau du, de ce qu'on appelle le mauvais œil, mais je veux tout de suite aller à l'essentiel, la signification que nous avons de la Torah de l'interdiction du dénombrement. Alors, finissons de lire le chapitre 12, je profite pour ceux qui n'étaient pas là au début. Tout Issa, étroche de Israël, lorsque tu dénombreras les enfants d'Israël. On pourrait donc traduire approximativement lorsque tu compteras les enfants d'Israël par tête. Mais étymologiquement, en hébreu, ça veut dire la sept, élevé, et arroche, la tête. Dénombré, dans le sens de désigner chacun par tête. C'est bien clair. Mais avec le même mot, il y a un deuxième sens, d'où l'ambivalence qui apparaît, c'est la sept est arroche, élevé, la tête. Donc, on reviendra que l'expression elle-même véhicule cette ambivalence et comment les commentateurs l'ont expliqué. Du coup, selon leur fonction, des bâtiments et donneront tous chacun kofer nafsho. Kofer, c'est un mot important dans le vocabulaire de la Torah. Est-ce que vous arrivez à avoir cette clé pâle, bien que je pense kofer. Il n'y a pas de voile dans notre texte, mais je l'écris avec A et voile. Voilà, le cas, il est trop bien. Cette racine a énormément de sens. Le premier sens, c'est recouvrir. Pour cacher quelque chose qui n'est pas... qui est honteux à être vu, je ne sais pas comment on dit ça en français. Pour cacher quelque chose, en particulier une faute. Alors, d'où le sens d'expiation. L'expiation recouvre la faute. C'est clair? Et rappeur, hein? D'où le mot de Kippourim, Kippour. Bon, d'autre part, retenez que le sens fondamental, c'est recouvrir. Deuxième sens, l'expiation, dans le sens de recouvrement de la faute. Il y a d'autres conduites de l'expiation qui sont annulation, effacement de la faute. Mais là, kapara, c'est le recouvrement. À partir de la kapara, la faute ne fait plus partie du domaine des relations publiques, mais elle est encore expliée plus profondément à l'échelle intérieure, individuelle, jusqu'à obtenir la mechila, la selicha, etc. Ce sont des niveaux différents. D'autre part, il y a la racine de remuement. Un remédat, c'est bien kofer. Il y a donc un certain nombre de sens. Ici, c'est le sens, évidemment, d'expiation. C'est-à-dire, voilà comment se fera le dénombrement. Le matin, donneront, tous, chacun, conformation, l'expiation de sa personne. Dans le sens d'un substitut expiatoire de sa personne. La somme à Dieu, jusqu'au départ, lorsqu'ils seront dénombrés, il n'y aura pas parmi eux un mot négatif de catastrophe. Mais bon, je cherche un mot français plus précis, mais c'est le sens de catastrophe, mais de façon de partir.
Alors, Rachid traduit de peste,
c'est un grand peste, c'est un exemple de catastrophe possible. Épidémie aussi, calamité, très bien. Il n'y aura pas un mot de calamité. Alors, la calamité, ça peut être une épidémie, mais une épidémie, ça peut être la peste, mais c'est très particulier. C'est pas Rachid qui a dit la peste, c'est la traduction. Il n'y aura pas un mot de calamité, jusqu'au départ par le fait qu'on est le nombre. Et ensuite, je reviendrai après sur ce verset qu'on vient de lire, verset 13 déjà, « Zé itomu kola erreur à la pipoudine. » C'est cela que donneront tous ceux qui passent par le dénombrement. « Mahasit a shekel, la moitié du shekel, le shekel à kodesh, au taux du shekel dont on se sert pour le culte, un shekel qui a un taux de change, quoi qu'on dise là, un taux hein, différent suivant qu'on s'en servait pour le culte ou suivant qu'on s'en servait pour le marché. Donc déjà, à l'époque, vous avez le pressentiment des problèmes de la société israélienne, parce que le shahar yatsiv et le shahar nayar. Alors ça veut dire qu'il y avait un taux fixé de façon absolue, d'après le poids de la monnaie en argent, pour le service du temple, et d'autre part un taux fluctuant, suivant l'état du marché à Rome, puisque c'était transactions commerciales du temps du deuxième temple se faisaient dans l'Empire romain. Et c'est pourquoi on appelle très souvent la monnaie, on ajoute lorsqu'on veut dire la monnaie du marché, Aoutalki. Par exemple, une monnaie qui s'appelle le hissar. Alors on appelle le hissar Aoutalki ou le hissar Akobosh. Le hissar Akobosh, ça veut dire celui dont on se sert pour le culte du temple, le hissar Aoutalki pour le marché. Aoutalki, ça veut dire italien en hébreu de la Mishnah, en hébreu moderne d'ailleurs aussi. Alors je reprends, il donnerait Mahzit à Shekel, la moitié du Shekel, l'un Shekel, le Shekel à Kodesh, le taux du Shekel sacré, et serait du Mora à Shekel, et la Torah précise que, j'espère arriver un peu à ces précisions de détail tout à l'heure, que le Shekel vaut 20 Mora. Première explication, ce Shekel à Kodesh vaut 20 Mora, alors qu'un autre Shekel peut valoir moins de Mora. Mora, c'est le sou par rapport au franc. La prouta par rapport à la lira, le brouge par rapport à avant. Mais vous voyez comment on fabrique en Israël de la préhistoire et une rapidité économique. Mahasid HaShekel, la moitié du Shekel, c'est Teruma, contribution, offrande de prélèvement, la seule pour Hachem. Voilà, jusque-là en tout cas, et je reviens. Je vais expliquer deux choses fondamentalement. D'abord, pourquoi le dénombrement est dangereux, et pourquoi le dénombrement doit se faire par une procédure d'expiation par substitution de sa personne au Mahasid HaShekel, une sorte de rachat. C'est un des sens que vous avez fait au mot de coffer, le rachat. Le rachat par substitution expiatoire, si je dis. Et puis, deuxièmement, pourquoi ce Mahasid HaShekel, qu'est-ce que nous apprenons de l'expression même envoyée par la Torah. Bien. Alors, la réponse que je vais vous donner est finalement très simple. Je vais tout simplement définir ce que c'est qu'un dénombrement. Je l'ai un petit peu indiqué tout à l'heure déjà, et c'est ceci. Tant qu'il n'y a pas de nécessité de se compter, de savoir qui, chacun pour lui-même, fait partie d'une certaine identité, par exemple dans notre cas, il devient nécessaire de savoir quel est le nombre des enfants d'Israël. Ça veut dire de compter les personnes qui se définissent par cette identité-là, les enfants d'Israël. Donc, chaque fois qu'il y a nécessité de dénombrement, ce qui se passe, c'est un jugement de chaque personne, fais-tu partie de cette identité ou pas. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est le fait que le dénombrement, c'est un passage en jugement. Et par conséquent, étant donné, vous voyez d'abord pourquoi, jusqu'à la fin des temps, le dénombrement sera interdit, parce qu'il est dangereux, ce jugement-là, qui consiste à faire passer un jugement d'identité, de même d'une société, d'une histoire qui a pour objet de leur faire acquérir cette identité. À chaque moment de l'histoire, ils seront toujours en décalage avec l'idéal d'identité. Et donc le dénombrement, c'est un jugement provoqué, anticipé, qui est dangereux. Tant qu'on est à l'abri de l'anonymat de la collectivité, l'Ebné Israël, on est abrité par l'identité collective. Mais s'il faut d'autre part rendre compte, justifier à l'échelle individuelle, la capacité individuelle de cette identité collective, alors c'est un jugement dangereux. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer ça. C'est clair pour tout le monde? Et par conséquent, le dénombrement se fait par une procédure de rachat expiatrice, du fait qu'on n'est pas encore arrivé à coïncider avec l'authentique de cette identité. Je reprends un peu l'explication du principe qu'il y a là dans cet enseignement. C'est le fait qu'à travers toute l'histoire jusqu'au bout, nous sommes jugés comme coupables de ne pas encore être devenus ce que nous avons à devenir. Et donc le jugement, avant le jugement dernier, est toujours un jugement dangereux. Le seul jugement souhaité, c'est le dernier des jugements. Parce que là, on a complètement préparé l'examen, si je veux dire. Mais imaginez quelqu'un qui a un temps d'histoire pour préparer son examen d'identité, il passe une licence de lettres, à l'apostrophe, et que, avant le temps, elle lui prenne sa copie. Elle est évidemment inachevée. Et donc, cette anticipation est dangereuse. Il peut arriver, donc, dit la Torah, qu'il y ait des nécessités historiques urgentes de faire ce dénombrement, alors sachez que c'est dangereux, et il faut faire ce dénombrement par le biais de l'expiation de ne pas encore être digne, chacun à son niveau, de cette identité de Bnei Israël. Vous voyez pourquoi le dénombrement soit mis en évidence l'excellence de chaque individu en Israël, mais si cette excellence est levée la tête, si cette excellence n'est pas atteinte, alors c'est dangereux, c'est enlever la tête. Le dénombrement est dévastateur et funeste. Et tout son lien d'une idée superficielle de mauvaise œil infantile, si j'ose dire, comme le voit lui-même, on en a parlé, c'est pas rien, c'est ici la perception d'une catégorie de conduite extrêmement importante. L'identité de vie retourne au dénombrement. Ce serait un manque d'humour profond. Vous savez qu'il n'y a pas plus grand blasphème pour la Torah que le manque d'humour. Je pense que c'est clair. Parce que ça veut dire, avez-vous reçu déjà des enfants d'Israël? Tu peux le compter dedans. Qu'est-ce que tu as fait? Vous comprenez ce que je vais faire ça à un autre principe que vous étudiez en histoire de la vôtre, en histoire des patriarches. Le troisième des patriarches qui va recevoir le nom d'Israël, mais avec le nom de Jacob. Et Jacob va devenir Israël. Ce n'est qu'à la fin de cet effort d'ascension d'identité, de transfiguration d'identité, qu'il devient Israël. Et le nom d'Israël est donné à sa collectivité, à la collectivité de sa descendance. La collectivité de la descendance d'Israël est déjà Israël. Mais chacun commence par être un Jacob qui doit devenir Israël. Alors si on interpelle au niveau de l'identité d'Israël des gens qui ne sont encore que jacobins, si j'ose dire, ou jacobites, il y a danger. C'est vrai jusque-là? Je vais vous citer à l'appui de cela un enseignement qui a été donné à propos des premiers versets du livre de Ruth, de la Mégidat Ruth. Et voici commence le récit de la Mégidat de Ruth. Vaï, bimé, chfeu, pachoftim, et ce fut au temps où jugeaient les juges, au temps des juges, si vous voulez, je vais revenir peut-être là-dessus, Vaï, va, abaret, et lui, famine dans le pays. Premièrement, information historique, au temps des juges, il y a eu un jugement, événement historique qui est arrivé. Une parenthèse dans la parenthèse, j'en ai parlé avec quelques amis ces temps-ci, j'étais extrêmement frappé de deux phénomènes contemporains dans l'histoire de la société israélienne moderne, enfin moderne et actuelle. C'est, d'une part, le pouvoir considérable des juges, et d'autre part, la crise économique. Alors, je vous ai mis le verset. « Vaïm, dimesh, fota, shofti, vajir, arabare. » Il arriva au temps où jugeait les juges, il y eut une famine dans le pays. Je vais faire la parenthèse, je crois que ça parle tout seul. C'est le fait que le risque de ce que la légalité se substitue à la moralité a des conséquences sur l'état moral de la société et donc évidemment à travers le niveau économique. Je pense que c'est clair. Vous voyez comment ça avance. Pour simplement vous citer des exemples dans le journal d'aujourd'hui encore. Hein. D'un côté, le pouvoir considérable des juges, de l'autre côté, le désordre économique. Ça veut dire que quand l'état de la moralité est atteint, alors ça se traduit d'abord au niveau des échanges économiques. Enfin, il faudrait prendre le temps d'analyser tout ça, mais je pense que le principe est très simple. Nous avons une mission dans le pied de qui est très importante et qui montre cela. De degré en degré. Si on abandonne des conduites de charité, alors la famine devient de plus en plus grave. Il y a un principe très important, quel lien entre la charité et la famine. Bon, ça, c'est encore un problème théologique pour lui-même, je vous le décris très rapidement. Un des principes fondamentaux de la foi juive, de la Torah, de prophètes de la Bible, c'est que nous sommes toujours à l'intérieur du monothéisme intégral, il y a une relation entre la conduite morale et le sort dans l'existence. Et étant donné l'importance de la subsistance du problème économique, vous voyez, ça veut le lien direct. C'est ce qu'on voit en particulier dans la deuxième paragraphe du Kriyat-Shema. Et si vous pratiquez mes commandements, je donnerai la pluie en votre temps, et vous aurez, en son temps, et vous aurez une récolte. Quel rapport entre pratiquer la vertu et avoir la pluie? Alors, où nous sommes dans une mentalité dualiste, le monde de la nature et ses comportements sont en absolu pour lui-même, rien à voir avec le monde de vertu et de la moralité. Ou bien nous sommes dans une atmosphère monothéiste, c'est le principe de base qui est premièrement affirmé, c'est celui-là. Le comportement moral et le sort dans l'existence sont liés. Et même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas perceptible, c'est perceptible pour les sages, disait Maïmonide hier soir, mais, rappelez de ce qui était là, mais c'est. Perçu comme un article de foi fondamental à l'intérieur de la foi monothéiste. Je pense que c'est bien clair. Ceci a été perdu dans l'expérience de la mentalité moderne, mais vous pourrez, si vous en avez l'occasion, en parler des orientaux, des sociétés orientales, pour eux, c'est encore une évidence qui va de soi. Le climat se ressent des mœurs de l'homme. Vous n'avez pas compris le problème. J'ai eu un maître il y a très longtemps. Autant la guerre d'Espagne, je ne sais pas si vous avez expliqué la guerre d'Espagne. J'ai été le premier les premiers exercices de massacre et des tueries européennes. J'ai été épouvantable à l'époque, nous étions jeunes, et la guerre d'Espagne. Et alors, dans son enseignement, il nous avait dit la formule suivante. Plus on mange cachère, moins il y a de sang versé. Les Espagnols ne mangeaient pas cachère, alors le sang était versé. Il faut bien comprendre ça. Il ajoutait d'autres formules comme ça. Plus il y a de moralité, et plus le monde de la nature se transfigure. Moins il y a de moralité, et moins le monde, et plus le monde de la nature se devient grossier. C'est d'ailleurs une expérience de test du niveau de la moralité d'une société donnée. Et je vous ai cité cette source dans le théâtre chômeur, mais c'était pas seulement une évidence pour la société hébraïque, c'était une évidence pour toutes les sociétés traditionnelles. Je vous raconte un petit fait que j'ai étudié en travaux pratiques dans mes études d'ethnologie. C'est qu'il y a dans certaines sociétés des hommes qui sont capables de faire tomber la pluie s'il n'y a pas la pluie en priant. Et une des explications que j'ai reçues, qui n'est pas très exactement talmudique, le Talmud fait intervenir le facteur de la prière s'adresse à Dieu et Dieu donne la pluie. Mais dans la mentalité mystique extrême orientale, on fait l'impasse. C'est-à-dire que c'est celui qui prie qui commande à la pluie. C'est à peu près dans ce langage, ou dans cet autre langage, l'immanence ou la transcendance. Voici comment ça a été expliqué. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le monde intérieur de l'homme et son monde extérieur. Et donc il y a une correspondance entre le climat intérieur et le climat extérieur. Et si on est capable de pacifier le climat intérieur, alors le climat extérieur se pacifie. C'est ainsi que vous nous expliquez la conduite de ces fakirs, je ne sais pas comment on appelle le tzadikim des hindous. Non, c'est pas des sorciers dans le sens négatif. Qui arrivait à s'isoler de la société, se pacifier intérieurement, et la pluie tombait à l'extérieur. Voilà. Je ne vous en parle pas du tout comme des fantasmes mystiques, je ne sais pas comment employer. Ce sont des faits scientifiques éprouvés que nous avons étudiés en laboratoire dans les sciences technologiques. Par exemple, mais oui, c'est par la prière. Hein. Mais ça vient même. Celui qui prie pour demander la pluie doit d'abord se pacifier intérieurement. Je vais raconter une petite anecdote que je raconte souvent. C'est pas parce qu'il m'arrivera souvent de vous donner des exemples de ce dont parle la Torah dans notre société. J'ai une fois raconté ça, mais je répète. Un jour, je me trouvais dans un congrès de théologiens en France, et il s'agissait de miracles. Et alors, un des ecclésiastiques m'a posé la question suivante, « Monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez au miracle de Lourdes ?» Alors j'ai répondu, « Mais bien sûr que j'y crois, stupéfaction dans la salle. À une condition, que ce soit authentifié par un tribunal ecclésiastique, que ce soit vraiment l'Église qui dit que c'est un miracle, de restupéfaction. » Alors je leur ai expliqué le fait qu'il y ait des miracles à Lourdes, ça ne signifie pas que le catholicisme soit une religion vraie, ça veut dire que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même catholiques. Alors donc, si vous trouvez l'exemple de comportement traditionnel analogue dans d'autres sociétés, ça ne signifie pas que parce que c'est chez les autres, c'est pas vrai. Vous avez donc compris ça. Alors, je reviens à ce que nous disions. Donc, dès le début du livre de Ruth, on a une indication extrêmement étonnante de cette relation entre le pouvoir des juges et l'état de l'économie. Le mot de Ish, le mot de Féliouda, est un homme. Le mot de Ish, on indiquera toujours le sens d'un notable. Ça veut dire un des. Comment on peut dire aujourd'hui dans la société contemporaine? Un des notables fait partie de Bethlehem. Bethlehem qui est patronne d'ici, qui se trouve dans le pays de Juda, la Gour, fils de Moab, pour séjourner provisoirement. La Gour, séjourner provisoirement. C'est pas la Dour, séjourner définitivement. Vous connaissez la différence d'expression. La Gour, fils de Moab, c'est-à-dire il a fait une yérida provisoire. Il n'y avait pas la famine à Moab. Moab, c'est de l'autre côté du Jourdain. Nous voyons tout son malade, lui, sa femme et ses deux fils. Verset 2, Veshemaï Shalimelech, et le nom de cet homme était Elimelech, Veshemishto Naomi, le nom de sa femme Naomi, Veshem Shnemanav, et le nom de ses deux fils, Mahlon de Chilion, Ephratim, Mahlon de Chilion, les Ephratéens, Nidot Lechem Yehuda, Donc, la maison de Bethlehem, la maison enfin, de Bethlehem, regardez d'ailleurs le livre du texte, il y a une famille où? Dans la maison du pain, avec les... Regardez de Moab, et ils arrivèrent. Et ils arrivèrent au champ de Moab, et ils furent là-bas. Verset 3, Vayamot Elimelech ish Naomi. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, Vatisha Eru, Shnebanea, et puis on nous raconte après que les deux fils meurent aussi, toute l'histoire qui débute le rivoli. Alors, c'est le chenil de Chotabri, c'est ça qui enseigne de cette manière. D'abord, au verset 1, on nous a dit qu'il s'agissait d'un homme, de sa femme et de ses deux fils, sans nous dire qui c'est. Simplement, ils sont à l'abri du label d'identité de Bethlehem Yehuda. On ne nous dit pas qui ils sont individuellement. Verset 2, on nous dit leur nom. Verset 3, ils sont morts. Ça veut dire qu'on les a sortis de l'anonymat. On les a donc fait passer un jugement. Qu'on s'y tue avec ton nom. Et le jugement n'a pas tenu. Et alors, retenons un peu, si vous voulez, ce principe qui est extrêmement important. Le dénombrement est dangereux parce que tant qu'on n'est pas assuré, et on n'est jamais assuré, que son identité individuelle corresponde est vraiment homogène à l'identité du groupe auquel on est imputé, et dans ce cas c'est l'identité d'Israël, ça consiste dans un passage en jugement. Et par conséquent, il faut donner une expiation de faute, d'une faute d'être, d'une faute qui n'a pas du tout été faite, de cette culpabilité qui consiste à ne pas être encore devenu ce que l'on doit devenir. Il n'y a aucune faute, mais on n'est pas devenu ce que l'on doit devenir encore. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai dit à propos de Job hier soir, probablement je suis encore dans le même chapitre, mais enfin, c'est vrai aussi pour notre sujet. Tout le monde a bien compris, si ce n'est pas clair, m'interroger. Et alors, le commentateur de la Kabbalah fait remarquer, j'en arrive au deuxième point, pourquoi pas le shekel. Que la valeur numérique du mot shekel est la même que celle du mot nefesh. Et après je traduis. Si vous voulez, on va faire un peu d'arithmétique ensemble. La valeur numérique du mot shekel, c'est, si je comprends bien, 430. C'est une couche la même. Hein? Et la valeur numérique du mot nefesh, qui signifie la personne, qu'on fait un faux, c'est aussi 430. Nun et P, ça fait 130 et Shin 380. C'est-à-dire que ce chapelle dont on parle correspond au nefesh. Ça veut dire le nefesh, c'est la personne humaine. La personne humaine doit avoir un substitut qui est le shekel. Et ce shekel, c'est-à-dire c'est le nefesh qui s'appelle le shekel à Kodesh. Et c'est la moitié du nefesh qui est en question de rachat par substitution d'expiation. Alors là, il y a un terme de théologie profonde que je vais simplement explorer. Finalement, le nefesh résulte de la synthèse entre l'âme et le corps. La neshama d'un côté, qui est tout entière neshama, le corps de l'autre, qui est tout entier corps, et puis, lorsqu'il y a ce miracle de l'incarnation de la neshama dans le corps, de l'âme dans le corps, apparaît un nefesh, une personne. Et donc, la personne est par un côté de sa personne neshama, et par l'autre côté de sa personne bouffe. Le chassidim indique cela, que nous de façon très jolie, très belle. Lorsqu'il commence la prière, il se met une ceinture pour séparer le nefesh en deux. La dignité du nefesh du côté d'en haut et la dignité du nefesh du côté d'en bas, mais ce n'est pas la même dignité. J'ai remarqué cela. Je ne sais plus comment ça s'appelle en hébreu, ce que. Non ? Et là, j'ai pensé une fois. J'ai demandé à ma femme qu'elle me le dise. Alors, c'est vraiment un très beau miracle. Donc le nefesh est en question de kapara, d'expiation. Et là, il y a une indication très précise dans l'ordre des intuitions de la théologie juive en particulier, la neshama est déjà a priori complètement pure. Le tikkun, la restauration, la mise au point, c'est le côté corporel. C'est-à-dire la moitié du nefesh qui doit être racheté, c'est pas la neshama. C'est précisément le niveau d'insertion terrestre, le niveau d'insertion dans le monde de la nature. Je crois que je peux arriver à formuler ça de façon extrêmement totale, même si ça paraît un peu trop schématique, mais c'est quand même un problème très nuancé. C'est-à-dire, nous n'avons pas à sauver nos âmes. Nos âmes sont sauvées en tant qu'elles sont des âmes. c'est le corps que nous avons sauvé, c'est-à-dire notre conduite terrestre. Lorsque l'âme entre dans le piège de ce monde-ci, c'est là qu'elle est en danger. Mais c'est donc au niveau du comportement des actes que nous avons à nous justifier. L'âme nous vient de Dieu, pure et avec pure. C'est la première prière, des prières qu'on dit le matin. Et le calme, le chemin, c'est notre habiteur. Mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. J'ajoute avec des commentaires bizarres, et elle reste pure que je ne la veuille pas. Et je te la rendrai pure un petit peu plus même, si Dieu veut. Voilà le programme de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette obsession qu'on trouve dans notre religion, plus crépusculaire, si j'ose dire, qu'il faut sauver nos âmes. Et là, il y a une incompatibilité totale de sensibilité théologique. Ce qu'il faut sauver, c'est les personnes, au niveau de leur conduite, leurs actes. L'âme en elle-même est pure et elle reste pure. Elle n'est pas touchée par aucune impureté quelconque. La Kabbalah explique ça de la manière suivante. La faute éloigne la neshama, mais elle ne l'atteint pas. Ça veut dire, s'il y a une conduite d'immoralité, la neshama est mal à l'aise dans ce corps-là, dans ce nefesh-là, elle s'éloigne, elle est plus loin, mais elle n'est pas touchée par ce que le corps fait. Est-ce que c'est clair, Julia? C'est très schématique, là. Par conséquent, nous avons une indication, là. C'est bien clair? Très justement, le mot qu'on voit le kabbalistes, c'est que la faute met l'âme en exil, de la même manière que la faute met la shrina en exil. Lorsqu'il y a faute, la shrina s'éloigne. De la même manière, à l'échelle individuelle, lorsqu'il y a comportement de faute, l'âme s'éloigne. Pour dire dans un langage contemporain un peu plus éclairant pour nous, elle s'occulte de plus en plus. Elle entre profondément dans son propre inconscient, elle n'est pas présente, ce qui est le sens d'une autre shrina. Elle n'est pas présente à elle-même. Et l'expiation de la faute fait revenir la neshama. On dit le hashir nefesh. C'est l'expression en hébreu, faire revenir le nefesh, parce que la faute l'éloigne. Vous connaissez ce midrash à propos de la parasha de Yitro de la semaine dernière, qui est un midrash très, très important. Lorsqu'on étudie l'histoire des différentes générations à partir de Adam, jusqu'au déluge, alors on s'aperçoit qu'il y a eu successivement toute une série de fautes de génération en génération. La faute de Adam, du premier homme, la rébellion contre Dieu, la faute de Caïn, le deuxième homme, l'assassinat de son frère, et puis ça continue, la faute de Enoch, la faute de... Bon, et on arrive finalement au terme d'une septième génération où le sursis donné à cette humanité est achevé. Et donc, catastrophe, finalement, sursis supplémentaire, mais ce sursis de cette génération est âgée, catastrophe, le déluge, cette civilisation disqualifiée. Le Midrash dit qu'à chacune des fautes, la Shrina, la présence de Dieu au monde remonte dans le ciel. Et en fin de compte, elle est remontée au-delà du septième ciel. À partir des patriarches commence la restauration. Abraham, par son mérite, fait redescendre la Shrina de l'au-delà du septième ciel jusqu'au septième, etc. Et en fait, quand on arrive à la génération de Moïse, il y a ce verset de la parasha de la semaine dernière, d'ailleurs, Hachem à l'art final. Et en fin de compte, Moïse, fils de Amram, fils de Lévi, fils de Jacob, fils de Isaac, fils d'Abraham, au temps de Moïse, la Shrina a mis le pied sur l'art final. Pour le dire à la manière des prophéties du Har HaZetim de la fin des temps, que le Mashiach mettra le pied sur le Har HaZetim. Et l'autre idée, la faute éloigne la Shrina. Le mérite la rapproche. De la même manière pour la neshama, à l'échelle individuelle, la faute éloigne la neshama, le mérite la rapproche. Il permet de se dévoiler plus à travers un véhicule de présence, le corps, le nefesh, plus transfiguré, plus épuré. Et c'est donc très important de comprendre cela. L'objectif de la kapara n'est pas le salut des âmes, si je veux dire, mais c'est le salut du mahasit à nefesh. Le mahasit, celui qui est en question, celui qui est appelé, celui qui est en exil. Si je veux dire, si nous avons le temps, nous prendrons une analogie entre le récit de la création de l'homme et le récit de la sortie d'Égypte. Je vais le faire peut-être en survol, en comparant deux versets. Le verset de la formation de l'homme, la Yetzirah de Adam, c'est le verset 7 du chapitre 2 de Bereshit, qui dit « Va'utse Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. Va'utar be'afar nishmat chayim, va'yi Adam et nefesh chaya. » Je traduis, je veux dire, il y a trois étapes dans la formation de l'homme qui correspondent aux trois étapes de la sortie d'Égypte. Première expression. « Va'utse Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. » et Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Vous remarquez que dans la Bible, il y a deux livres, il y a un dualisme dans le verbe de la formation. Se rattacher, je dis tous les téléphones à la fois, mais ça va s'éclairer tout seul. Se rattacher au fait que Mitzrayim, le mot de Mitzrayim a la même racine que le mot de Raïtzer, et Mitzrayim est un duel. Ça veut dire que le creuset de formation de l'homme a été ce que la Torah appelle poussière de la terre. Le creuset de formation du peuple d'Israël a été l'Égypte. Mitzrayim correspond à Raïtzer. Pour ceux qui entendent le vrai, ça va plus vite, hein. Mais les autres, j'espère arriver à faire comprendre par par analogie. Et par Adam, l'homme a formé Adam, hein. Le point de départ est poussière de la terre, et on a remarqué que le mot de Afar, c'est le même lettre que le mot de Paro. Ré Afar, Paro. Ça veut dire qu'il y a une aliénation à Pharaon. Pharaon, c'est quoi? C'est finalement les conditionnements terrestres. Si vous avez entendu, on peut l'indiquer en Rachet Rakim, toutes les aliénations finalement culminent dans l'aliénation politique au niveau de la société. Ça veut dire qu'il y a un Pharaon qui est la poussière de la terre elle-même, ça veut dire le héros de la nature. Et puis un pharaon qui est la même chose au niveau de la société, les lois de la société totalitaire. Les conditionnements, les aliénations. Alors, je reviendrai d'ailleurs. Et ensuite, Valpar de Atavish Matraïm, il insuffla en son visage une âme de vie, deuxième moment. Ça, c'est le passage au désert avec insufflation de la Torah. Neshama, c'est le même être que Mishnah, dit le Mkuvali. Ça, c'est le passage au désert. Ben, lui, Adam le Nefesh Chaya, et l'homme devant personne vivante, ça c'est la rentrée en Eretz Israël. Vous voyez, très brièvement, le parallèle de rythme cette description de la formation de l'homme et de la description de la formation de la nation d'Israël à la sortie d'Égypte. Alors, à la sortie d'Égypte, nous sommes délivrés du conditionnement du côté du corps, à Farina Adama, Paro. Okay. Nous étions asservis au Pharaon, et puis nous en sommes libérés. Nous en sommes libérés comme cadeau a priori. Et puis, à une condition, c'est que nous rachetions cette libération en acceptant les lois du libérateur. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je pense que oui. Hein. Et donc, tant que nous ne sommes pas encore libérés de cette bête d'aliénation au pharaon, alors nous sommes en condition d'avoir, en situation d'avoir à libérer notre personne. Laquelle? La moitié, celle qui était aliénée au pharaon, pas celle qui vient de l'âme, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Voilà, l'image est très simple finalement. En cours d'histoire, chaque personne humaine est à la manière d'Israël en Égypte, d'un côté serviteur de Dieu par son âme, mais de l'autre côté à servir Pharaon par son corps. Alors qu'est-ce qu'il faut libérer? La moitié de cette personne-là, celle qui est du côté du Pharaon. Voilà ce que vous m'indiquez très rapidement. C'est suffisamment clair? Bien. Alors, nous voyons dans le texte, Esrim Dera à Shekel. Je fais simplement un petit complément à ce niveau, que le shekel a 20 parties, chaque partie s'appelle un dera. Et comment indiquer cela que dans le mot de Raïtzer qui indique la formation de l'homme, il y a deux moudes, et chacun des deux moudes désigne, chacun a la valeur de 10, et ensemble ils sont 20, et que c'est la moitié du Raïtzer qu'il faut libérer. Bon, merci pour ce premier point. Pour la paracha de Shkalim. Alors je crois qu'on va enchaîner très naturellement sur le problème de la libération des esclaves qu'il y a tout au bout de la paracha de Mishpatim, dont vous direz quelques mots assez brefs. Et comprenons donc au chapitre 21, à la page 107. Voilà, je n'aurai pas le temps d'étudier le contenu d'une mitzvah en particulier, ne fût-ce que la première. Je vais essayer d'étudier avec vous un enseignement qui a été donné sur le premier verset que nous allons lire, traduire, définir, et à travers ce que nous dit Rashi. Est-ce que je peux avoir ma lettre? Voilà. Après la promulgation des 10 commandements au Sinaï, que nous avons mis dans la paracha de Yitro, la Torah va formuler la constitution d'application des principes des 10 commandements. Le principe, je pense, est suffisamment clair. À partir de la paracha de Mishpatim, nous verrons le code d'application de la législation de la Torah. C'est bien clair jusque-là. Et ce texte qui commence par des dispositions concernant l'esclavage et le fait, toute une procédure qui a pour objectif le fait de mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire une sorte de prolongement de l'effort historique de la sortie d'Égypte. La Torah donnée à ce peuple sorti d'Égypte a comme premier souci ce problème de la libération, de l'aliénation au niveau de la société. Ça s'appelle, par ce terme qui a différents sens suivant l'état de mort, le mot de l'esclavage. J'ai l'habitude de citer, je le répète encore aujourd'hui, c'est d'après la définition qu'on donne du Talmud, il y a de nouveau d'aliénation de personne à personne, et le principe en étant l'aliénation de l'emploi du temps. C'est-à-dire un homme qui n'est pas capable de gagner suffisamment sa vie pour vivre comme homme libre, par ses propres forces, par ses propres ressources, vend de son temps à quelqu'un d'autre qui l'aide à gagner sa vie. Alors vous voyez tous les niveaux. On peut être employé 8 heures par semaine, on peut être, sous contrat, etc. Et lorsque Sirin, j'ai dit 8 heures par semaine, l'optimisme. vous avez raison. Et puis on peut être aussi employé 24 heures sur 24, c'est-à-dire avoir son temps complètement aliéné. C'est ça qui s'appelle le rêve qu'on traduit par esclave. Et donc la Torah intervient pour dire, vous êtes libéré de vie. En principe, vous êtes des hommes libres. Mais si ce cercle vicieux du fonctionnement de la société, cette machine infernale, recommence à fonctionner, à faire qu'il y a de nouveau des esclaves, premier souci de la Torah, libérez-les. C'est-à-dire un appel. On condamne l'homme de la société d'Israël à être homme libre, qu'il ait le courage ou pas. Si on l'appelle courage, il y a une espèce de démission d'identité, on le marquera pour cela. Vous rappelez le martyrs. Hein. Mais je le dis très rapidement, le souci principal de la Torah, c'est d'achever la sortie d'Égypte. Si les conditions de l'esclavage d'Égypte recommencent, achevez-les. Retenez bien ça en tête, nous allons le retrouver dans le commentaire de Rachid que je vous lis rapidement sur le premier verset. Alors, c'est le terme donc, de Mishpatim qui est le terme principal du verset. C'est ce code de législation, aussi d'ailleurs il y a un aspect de jurisprudence, qui est proposé à Israël comme constitution des principes de dix commandements, des principes de la Torah du Sinaï. Alors nous allons lire ça ensemble, d'abord le verset et ensuite ce que dit Rachid à ce sujet. La tradition littérale est assez simple. Amishpatim, les principes de constitution, les principes de législation, le jugement, littéralement, la jurisprudence, tout cela est dans ce terme. Achertasim Ishneel, que tu placeras devant eux, ça veut dire que tu leur proposeras. C'est bien clair ? Ça va jusque-là. C'est l'intitulé du code qui commence là. Voilà ce que dit Rachid. Il cite un principe qui est enseigné plusieurs fois dans le Midrash, mais en particulier dans le Midrash Rabbah sur le Cantique des Cantiques, sur Shir HaShirim, et qui dit ceci. Chaque fois qu'un texte commence par l'expression « Ve'ele » et « Voici », comme la com, chez Neymar, « Ele » non, j'ai pris les choses à l'envers. Chaque fois qu'un texte commence par « Ele »,« Voici », comme la com, chez Neymar, « Ele », tout texte qui commence par « Voici », passant le Tanchonim, à annuler ce qu'il y avait avant, les choses précédentes, les premières choses. Vous voyez, il y a un premier récit, une première...